protestant peut en cacher un autre. Une émission préparée et présentée par Yolande Fourchard-Gounel.
Bonjour à tous. Trop souvent, on associe protestantisme et grande bourgeoisie. C'est vrai, mais ce n'est qu'un aspect de cette religion. Par exemple, depuis plus de 60 ans, le protestantisme a pénétré le monde gitan. Et j'ai le plaisir de vous présenter ici le pasteur Pierre Gracias de l'église Vie et Lumière. Alors bonjour Pierre.
Bonjour.
Vous êtes un membre de la communauté gitane donc de Montpellier. Vous êtes ce qu'on appelle un voyageur ou un sédentaire ?
Je suis un sédentaire.
Vous êtes un sédentaire et donc vous travaillez sur Montpellier.
Je travaille sur Montpellier. Je suis agent développement du quartier à Montpellier et je suis également pasteur à Montpellier et aussi aumônier de la Fédération protestante à la maison d'arrêt Villeneuve-Maguelone.
D'accord. Alors, agent de développement de quartier, c'est-à-dire ?
Je suis le lien entre le quartier de la communauté gitane de Montebirou avec ACM.
Avec, pardon ?
ACM, c'est l'office de logement.
D'accord.
Et aussi avec la mairie.
D'accord.
Avec des adjoints, c'est moi qui fais un peu le médiateur entre le quartier et l'ACM.
Et donc, et les autorités locales, si on peut
dire. Et les autorités locales.
Oui. Alors, on va parler de votre foi, puisque c'est pour ça que vous êtes ici. À l'origine, vous étiez catholique.
À l'origine, mes parents et moi-même, je suis né catholique.
Mmh.
J'étais même baptisé à Lourdes.
À Lourdes ?
Oui, mes parents m'ont amené à Lourdes, mais j'avais quoi, deux, trois mois.
Bon, donc vous en rappelez pas.
Je me rappelle pas.
Il n'y a pas un gros souvenir.
Et alors, pas de souvenir.
Oui, bien sûr. Comment ça se passait, l'éducation religieuse catholique chez un jeune gitan ?
Il n'y avait pas trop de fils chez nous. À l'époque, on vivait à la Cité Chantal. À la Cité Chantal, à Selleneuve.
D'accord.
Route de Bionne. Ouais. Aujourd'hui, ça n'existe plus parce que ça a été détruit.
Ouais.
On a été aménagé donc à la cité Montebirou en 1988.
Donc il n'y avait pas de. Vous avez eu quand même des bribes d'éducation religieuse ou pas du tout ?
Au début, non. À mon enfance, aucune éducation religieuse.
Mais c'est après, il y a ce folklore, donc vous parlez de Lourdes, il y a aussi d'autres lieux.
Oui, c'était les Saintes-Maries de la Mer.
Oui.
Tous les ans, comme cette année-là, 25. Hein? C'était le Sainte-Marie de la Mer, on y allait plutôt pour folklorique, plutôt pour promenade. C'était plutôt voir les gens, le monde, la famille qui se trouvait au Sainte-Marie de la Mer. Mais il n'y avait rien de foi concret avec Dieu.
Oui.
Et avec la religion vraiment consacrée à Dieu.
Vous n'aviez aucune religion, enfin aucune foi, aucune prière.
Aucune prière.
Et alors, ça a changé brutalement.
Ah oui, ça a changé brutalement. J'avais 17 ans et demi. C'était en 1980. C'était un pasteur des Assemblées de Dieu.
Donc, Assemblées de Dieu, c'est pentecôtiste.
C'est pentecôtiste.
Oui.
Oui, qui se trouvait à l'époque à Montpellier, boulevard Louis Blanc.
Mmh.
Dont le pasteur, c'était Albert Leblon. Et il y avait un ancien qui s'appelait André Bourdon, qui a eu à cœur de venir à la cité Chantal apporter l'évangile, la parole de Dieu, dans des maisons.
D'accord. Aux gitans, donc, à la communauté gitane.
À la communauté gitane.
Eux-mêmes n'étaient pas des gitans.
Eux-mêmes n'étaient pas
des gitans. Non, c'était des pentecôtistes.
C'était des pentecôtistes.
D'accord, ouais.
Au début, c'était en 1965. Et bien sûr, moi, j'avais deux ans à cette époque-là. Donc, l'évangile a été imprégné par la communauté gitane. Il y a eu des conversions de foi, des gens qui sont convertis à Dieu, des gitans. Et le pasteur André Bourdon, pardon, donc il a loué un terrain, il a construit une petite église en préfabriqué et les gens venaient du quartier de la cité Chantal.
Et vous êtes converti comme ça ?
Et moi je me suis converti quand j'avais 17 ans et demi, j'allais à l'église, dans cette église évangélique de Pentecôte, et je me suis converti à Dieu par l'intervention divine.
Qu'est-ce qui vous a frappé dans le message ? Qu'est-ce qui vous...
Ce qui m'a frappé dans le message, c'était la croix, l'amour de Dieu pour les hommes, pour l'humanité. Et donc, il a donné son fils Jésus sur la croix, en rançon pour nos péchés. Et c'est là qu'une lumière s'est faite dans mon cœur, la parole a pénétré, et j'ai accepté Dieu, et j'ai accepté Jésus, et j'ai demandé pardon à Jésus pour mes péchés. Même si j'étais jeune, je me sentais pécheur.
Ça s'est fait tout d'un coup, ça a été comme une révélation.
Ça a été bien sûr une révélation par l'intervention du Saint-Esprit. Ça a été des pasteurs de Perpignan à l'époque, c'était Berriot, le vieux Joseph, c'était des gitans eux-mêmes qui nous ont apporté l'évangile, parce qu'il y avait quand même un contact avec le pasteur André Bourdon, puisqu'André Bourdon, il a fait partie de l'église évangélique Vie et Lumière.
Oui, donc Tzigane.
Et Tzigane, oui. Cette église Vie et Lumière qui a été fondée par Clément Le Cossec, breton, et qu'il a adhéré cette église Vie et Lumière à la Fédération protestante en 1975.
Oui, vous êtes une église qui est à la Fédération protestante depuis longtemps.
Oui,
et on va
longtemps.
Le voir, ça de l'importance pour vous, notamment au niveau de votre acceptation, disons, dans la société, dans la religion. Ça vous aide beaucoup, on en parlera tout
sûr.
À l'heure. Et par rapport à votre famille, est-ce que ça a posé problème, votre conversion ?
Au contraire. Aucun problème, puisque les jeunes, comme à l'époque, un peu moins, mais les jeunes fréquentaient des lieux pas trop recommandés, et on devenait donc des petits voyous. Donc quand les parents nous voyaient donc à la conversion, à l'évangile, donc ils voyaient que les jeunes changeaient, et surtout qu'on intégrait à la société.
Il y avait une moralisation, un discours moral que vous apportait l'Église.
C'est ça, oui, effectivement, un discours moral.
Et les parents, ils se convertissaient aussi ou ils restaient
Deux fois des familles où les parents se convertissaient et d'autres non.
Et cet évangile, cette religion a pénétré très vite dans les...
Très vite, surtout à Montpellier, même en France.
En France, oui.
National, oui. Ah, oui, même mondial, je dirais. Je ne suis pas à ce niveau-là, mais plutôt Montpellier a eu vraiment une intervention divine, une proportion qui s'est développée.
Oui. Et vous savez à peu près par rapport à ceux qui sont restés catholiques, combien ça représente ?
Une minorité. À l'heure actuelle, on est 80%. Ah oui, 80% à l'évangile.
80% des gitans en France sont à vie et lumière.
Ah oui.
Ah, mais c'est impressionnant, ça.
Ah oui, il y a eu. De toute façon, les Saintes Marie de la Mer, il suffit d'y aller aujourd'hui, il y a très peu de monde.
Il n'y a plus que des touristes.
Ah oui, très peu, plutôt des gitans, très peu.
Ouais.
Ah oui.
Ah ben ça, je savais qu'il y avait eu un très gros développement, mais je ne savais pas à ce point-là.
Oui.
Mais on va le voir, sociologiquement, c'est très important, ça.
Oui.
Et alors, vous, personnellement, vous devenez pasteur. Alors, comment ça s'est passé ?
Donc, le pasteur gitan m'a amené, après ma conversion, ça s'est fait rapidement. On m'a amené donc, au centre de théologie biblique de Vie et Lumière, à Énorde, à l'époque.
Où ça ?
À Nordes, c'était au centre de la France, c'est pas loin de Bourges.
D'accord, oui.
Bon, cinquantaine de kilomètres, petit village.
Là, il y a un centre de théologie.
Un centre de théologie, à mon époque. Aujourd'hui, ça a changé.
Ouais.
C'est à Neuvois, à côté de Gien.
Mm-hmm.
Et donc, j'étais monté à l'école biblique de théologie 2 ans pour être reconnu prédicateur.
Oui, donc d'abord prédicateur.
D'abord prédicateur pendant 5 ans et après pasteur.
Oui. Et quelle est la différence entre le prédicateur et le pasteur
Oui, parce qu'on est stagiaire, on est en formation prédicateur. On ne nous lance pas dans les choses de Dieu comme ça, parce qu'il y a un peuple à enseigner, il y a un peuple à exhorter.
Oui.
Donc au début, c'est stagiaire. Donc voilà, c'est pour ça que, par sagesse, pour ne pas nous jeter dans
oui, bien
une église,
sûr. Oui.
Voilà.
Sans formation.
Voilà.
Et alors, qu'est-ce que vous apprenez dans ces instituts de théologie ?
Surtout la doctrine.
Oui.
La doctrine, c'est très important pour Vie et Lumière d'enseigner aux jeunes la doctrine.
Oui.
La doctrine du salut, la doctrine scatologique, la doctrine de la fin des temps.
Voilà, eschatologique, je précise pour nos auditeurs qui ne connaissent pas, c'est la fin des temps.
Voilà.
Oui.
Ah oui. Alors surtout ça, et surtout la conversion, la nouvelle naissance, oui. La Bible,
oui.
Comment elle a été écrite, par qui,
oui.
Un peu comme la Fédération protestante enseigne ses jeunes. Hein.
Oui, oui.
C'est
oui,
la
oui.
doctrine.
Oui, oui. Et vous avez aussi des sessions avec la Fédération protestante de France ?
Non. Il y a plus de contacts avec l'aumônerie protestante, des oui. sessions ensemble. Que.
D'accord, que... oui, là c'est pour l'aumônerie. Ouais. Donc cette formation, elle dure quand même un certain temps. Et pendant ce temps-là, vous travaillez ailleurs, enfin
ah oui,
vous...
on n'est pas, c'est bénévolat. Oui. Hein, c'est, ouais. Tous les pasteurs sont bénévolats.
Ouais.
Donc il faut bien qu'ils aillent travailler, comme ouais. moi-même je travaillais, je suis agent de développement. À l'époque, avant d'être agent de développement, je travaillais dans le bâtiment.
Oui.
Et je gardais l'église, j'étais pasteur et je travaillais.
Il n'y a aucun pasteur rémunéré
Aucun pasteur rémunéré.
Oui, c'est difficile pour...
Oui, c'est des bénévoles tous.
Oui, parce que ça fait une grosse charge de travail en plus
le
travail...
Effectivement.
Et l'aumônerie de prison, donc ça vous est venu tout de suite? C'était une évidence ou ça s'est fait par une rencontre?
Ça s'est fait... un jour, il y a eu trois gitans que je connaissais très bien. Qu'ils ont fait une bêtise.
Mmh.
Ils ont été condamnés aux assises. Et cela, ça m'a interpellé. Que vont-ils devenir pendant des années? Et cela, ça m'a touché à mon cœur pour leur apporter la parole de Dieu et comment y entrer, comment y aller. Après,
ouais.
j'ai appris qu'il fallait être aumônier.
Ouais.
Et c'est là que j'ai fait la demande à l'époque, en 1982.
Oui. Et donc, votre rôle en tant qu'aumônier de prison, à la radio, je précise ici pour nos auditeurs qu'on parle beaucoup de l'aumônerie des prisons. Vous pouvez regarder sur le site de la radio avec la petite loupe, rechercher, vous tapez « prison » ou « aumônerie de prison » et vous aurez toutes nos émissions. Et donc, votre rôle en tant que pasteur gitan, vous allez voir surtout des gitans ou pas que?
Oui, parce que la nomination est bien dite aumônier zigane, donc oui. je vais spécialement voir les gitans, mais ça n'empêche pas qu'il y a des maghrébins et de nos gitans qui assistent à nos cultes,
oui.
à nos cultes dans la prison.
Vous avez des maghrébins qui viennent
Oui, oui, oui. Ah, oui.
Et qu'est-ce qu'ils trouvent là
C'est la parole de Dieu pour eux, c'est Dieu, ça part de Dieu, ça fait de la prière. Et en plus, les maghrébins, ils connaissent bien la population gitane.
Oui.
Et c'est des amis, c'est des copains, ouais. donc ils assistent au culte.
Oui.
Ils ont grandi avec les gitans, donc quand ils sont en prison eux-mêmes, donc ils assistent au culte.
Ouais. Parce que donc vous faites des cultes, alors vous faites des cultes à la prison.
Quand je dis culte, c'est pas le culte et la Sainte Cène.
Oui.
Culte, c'est la prière, c'est
oui.
l'évangile. Je leur apporte l'évangile. Et en plus, c'est des questions-réponses sur la Bible. Parce que je ne viens pas à la prison et dévaler toute la prédication sans savoir que des gens ont besoin qu'on les écoute aussi.
Oui.
C'est ça l'importance.
Donc vous êtes plutôt à répondre aux questions qu'à apporter voilà. quelque chose de ficelé.
Voilà, si je préfère mieux qu'ils posent des questions. Moi, ça me permet d'intermédiaire de prêcher l'évangile, d'apporter la parole de Dieu. Parce que moi, je sais à quoi ils s'intéressent.
Et votre rapport avec les autres aumôniers de prison, ça, vous avez les mêmes personnes que vous voyez de temps en temps ou chacun a son petit troupeau?
Oui, il y a la Fédération protestante, il y a l'aumônier protestant, il a sa liste
oui.
de détenus, on
ouais.
a des listes.
Oui.
Moi, j'ai la mienne
oui.
de liste et c'est eux qui viennent donc à la salle polyvalente pour moi quand je viens tous les mercredis. Les aumôniers protestants, ils viennent deux fois le dimanche. Et d'autres jours de la semaine, chacun a sa liste. Et on fait nos cultes. Et des fois, on fait des cultes en commun.
Quand c'est... Et cette population donc, gitane qui est en prison, ils sont pour la plupart, alors je ne vais pas vous demander des statistiques, mais ils sont pour la plupart déjà convertis ou pas?
Non. Non, 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 non. Ils sont en prison déjà parce qu'ils ont fait des bêtises.
Ouais.
Et ils ne sont pas convertis. Il m'est arrivé de temps en temps de croiser en prison des gens qui étaient convertis, se sont déconvertis et ils sont rentrés en prison.
Oui.
C'est rarissime.
Ah ouais.
Mais plutôt la population ne sont pas,
ouais.
ne sont pas chrétiens.
Et alors, quand vous parlez avec eux, vous sentez qu'ils sont perméables, qu'ils écoutent, que ça,
ah oui.
parle, ça leur parle?
Ah oui, oui. Surtout, ils respectent beaucoup l'aumônier de prison.
Oui.
Ils respectent beaucoup l'aumônier de prison et ils sont beaucoup attentifs. Beaucoup attentifs. À l'évangile, à la parole de Dieu, à la prière.
Et ça les aide à supporter leur emprisonnement?
Oui. Ah, oui. Ah oui, ça les aide beaucoup.
Et est-ce que ça les remet en question par rapport à ce qui s'est produit?
Ça les remet beaucoup en question, surtout. Ouais. Ah oui, c'est ça, c'est le but du travail, de l'aumônerie,
ouais. Ouais.
En tant que pasteur évangélique. C'est qu'ils se remettent en question
Oui.
Et qu'ils prennent conscience.
Oui, oui, oui. Et vous avez parlé donc de voyous. Enfin, vous disiez au début de cette émission que les jeunes avaient tendance à devenir voyous avant qu'il y ait ces mouvements de conversion. Alors, vous dites que maintenant, ils s'intègrent, enfin, ils se moralisent. Mais est-ce qu'ils trouvent du travail? Est-ce qu'ils s'intègrent dans cette société? Parce qu'il faut reconnaître que la société, elle n'est pas très tendre,
oui,
vis-à-vis de vos communautés, je suppose.
Effectivement. C'est-à-dire les jeunes, ils n'ont pas de diplôme, ils n'ont pas de... Il faut qu'ils bien ils travaillent. Donc le travail, c'est un peu le travail saisonnier, ferraille. Ils travaillent beaucoup dans Nicolin, ramassage des poubelles et des conteneurs.
Oui. Et ça se passe bien avec les collègues. Est-ce qu'ils finissent par être acceptés dans la société, dans le...
Oui, oui, oui. Ils finissent par être acceptés parce qu'ils intègrent dans la société. C'est plus des voyous maintenant.
Ouais.
C'est des gens chrétiens, c'est des gens qui s'intègrent à la société, qui se mettent en règle à toutes choses.
Ils sont reconnus comme ça par les autres, ça se...
Oui, 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 parce que quand même, il se faut ressentir. Hein.
Et justement, je voulais insister sur le rapport avec la société civile, avec les autorités. Est-ce que les autorités constatent ce changement de... disons de comportement vis-à-vis des, enfin par rapport à ceux qui n'étaient pas convertis.
On est mal connu, ouais. Les chrétiens, les évangéliques, on est mal connu dès qu'ils rentrent dans un quartier. Donc pour eux, tous sont pareils, même si dans le quartier des chrétiens, on n'est pas reconnu. Non, on ne sent pas le...
Et vous avez besoin d'être reconnu. Comment,
oui,
vous pouvez justement montrer ce que vous êtes? Bon, vous êtes là aujourd'hui, donc
oui,
ça c'est une chose. Mais est-ce qu'il y a des choses que vous attendez, par exemple des collègues pasteurs protestants non tziganes? Est-ce qu'ils pourraient vous aider à...
Bien sûr. À un moment donné, j'ai eu des problèmes pour un local qui se trouvait au quartier des Galongues, et j'ai fait appel à la pastorale de Montpellier.
Oui.
Parce que j'ai fait partie aussi de la pastorale,
oui,
de Montpellier.
Oui.
Et quand j'ai eu besoin de la pastorale, ils étaient tous là en commun pour monter à la mairie et faire valoir mes droits de pasteur, de local dans le quartier des Galongues. Effectivement, on a eu gain de cause.
Oui, c'est aussi ce qui se passe au niveau de la Fédération protestante de France qui aide. Je sais que quand vous faites les grands rassemblements évangéliques,
oui,
il y a toujours des problèmes pour vous trouver un lieu qui vous accepte, parce qu'on voit arriver des tziganes et on pense aux voleurs de poules.
Voilà, c'est ça. Oui.
Et pas à ceux qui vont prier Dieu en paix.
Oui, ils ne reconnaissent pas, ils ne font pas la distinction entre,
ouais,
évangéliques,
ouais,
et gitans qui ne sont pas convertis.
Ouais.
Ils ne font pas la distinction. Ils voient tout le monde, ils nous mettent tout le monde dans le même sac, dans le même niveau.
Et là, la Fédération protestante de France joue un rôle pour justement montrer que, pour vous défendre, enfin, pour,
oui,
vous aider.
Oui, effectivement, comme aujourd'hui, il y a la radio,
ouais,
il y a aussi l'aumônerie protestante qui est un grand aide pour nous. Parce que quand même, ils font un grand effort pour nous faire reconnaître en tant que communauté intégrée dans la société, par le biais de l'Évangile.
Ouais.
Oui, effectivement.
Vous êtes proche des Cévennes, bien que vous ne soyez pas cévenol. Vous avez...
Ah oui, j'aime les Cévennes. Vous parlez des Cévennes, là, et...
Ah ben c'est bien, moi je suis dans les Cévennes, alors vous voyez, là où le petit peuple s'est révolté dans les années 1700 pour pouvoir pratiquer sa religion. Est-ce que vous vous sentez proche d'eux? Est-ce qu'il y a une forme de filiation?
Ah oui, je suis en train d'enseigner l'année dernière à l'église sur la persécution des Camisards, des Huguenots. J'ai eu le privilège d'apprendre l'église et de les amener à la tour de Constance pour leur expliquer Marie Durand, la souffrance,
ouais,
et la persécution.
Ouais.
Donc oui, les gitans s'intéressent beaucoup à la persécution de ces Cévennes.
D'accord, et pourtant, ils ne sont pas cévenols.
Ah non.
Il y a très peu de...
Pas de cévenols, puisqu'on vient tous d'Espagne, alors.
Oui, et donc, ils s'intègrent, mais c'est magnifique, ça.
Ah oui, c'est par le biais de l'Évangile.
Oui,
oui. Et moi, je suis un moteur, je suis une locomotive qui pousse donc, la communauté gitane à tourner cette page pour voir l'histoire de ces cévenols.
Oui.
Ah oui, oui.
Et puis vous m'avez dit aussi que vous étiez une forme de patriarche dans les communautés non converties pour essayer de moraliser, de jouer le rôle de juge de paix.
Ah oui, oui. À l'époque, il y avait les anciens qu'on appelait les patriarches. Aujourd'hui, maintenant, c'est les pasteurs qui sont des patriarches pour régler certains problèmes dans la communauté, même s'ils ne sont pas chrétiens. Il m'est arrivé souvent de fois de régler des problèmes dans la communauté gitane, qui ne sont même pas chrétiens, et de mettre la paix.
Ouais.
Ah oui.
Et vous dites aussi que vous êtes reconnu par les caisses d'allocation familiale parce que vous poussez les gens à déclarer mariés et non pas mère seule.
Ah oui, oui. Dès qu'il y a la conversion, de toute façon, dès qu'il y a une demande de baptême par immersion, j'exhorte donc aux chrétiens de se régulariser à la CAF pour se marier légitimement par la loi. C'est la loi et c'est la Bible, se soumettre. Et en plus, la CAF, quand ils voient des gitanes qui viennent dire « on vient se marier », la CAF dit « ah oui, oui, c'est M. Gracias Pierre
». Êtes...
Ça fait drôle.
Voilà. Vous êtes connu comme pour ça. Et alors, on a parlé justement des Cévennes, on parle de toute cette culture, on parle des liens avec la Fédération protestante. Est-ce que vous n'avez pas peur que toute cette moralisation qui existe, vous en êtes la preuve, vous le démontrez très bien, est-ce que vous n'avez pas peur que ça entraîne une perte de la culture gitane?
Non, puisque le seul but, bon, on est gitan, on restera toujours gitan jusqu'à la vie, jusqu'à la mort, mais le but, c'est d'être fidèle à la parole de Dieu. C'est ça, la vision et la foi, d'être fidèle à la parole de Dieu, de ne pas être fidèle, être gitan. On est gitan déjà dans la peau, dans le sang, et dans l'esprit, mais surtout dans la foi, on veut rester fidèle à la parole de Dieu, c'est ça. Le plus grand souci que j'ai, c'est que la communauté gitane reste fidèle à la parole de Dieu.
Oui, mais alors, votre spécificité de gitan et de protestant, qu'est-ce que ça peut apporter aux autres protestants? Qu'est-ce que vous pouvez nous donner à ceux qui écoutent comme message spécifique? Votre désir de liberté, votre... Qu'est-ce qu'il y a dans le... Vous parlez, vous dites, vous êtes gitan. Qu'est-ce qu'il y a dans l'ADN gitan?
Oui, gitan, c'est la liberté en plus. C'est la liberté de vivre comme on est, parce que nous, on aime bien vivre en communauté. Vous mettez un gitan tout seul dans un quartier, il se meurt. Un gitan a besoin de voir d'autres gitans. Et c'est ça qu'on a besoin. On ne veut pas que la société nous éparpille, quoi, qui nous divise toutes les familles. Les familles, elles aiment bien rester unies. Et ça, c'est ce que nous demandons, d'être toujours près des uns et des autres.
Et vous pensez que vous pouvez justement apporter cette façon de vivre ensemble aux autres, à la société française où les familles sont éparpillées? Est-ce qu'il y a un témoignage particulier que vous pouvez apporter?
Oui, c'est-à-dire que nous, on a beaucoup de non-gitans qui viennent dans notre église et qui viennent dans qui sont membres même de notre église, de non-gitans, à l'église à Montebourg. Il y a des Maghrébins aussi qui sont convertis à l'Évangile et qui sont membres de l'église de Montebourg.
Ouais.
Donc l'église de Montebourg, ce n'est pas une église que Zigane, que Gitan. C'est une église évangélique.
Vous dites l'église de...
De Montebourg.
C'est où ça?
Montebourg, c'est le quartier.
Oui, c'est le quartier, donc à...
Au millénaire. Au millénaire, pas loin du Zénith. On n'est pas loin du Zénith de Montpellier.
D'accord. Alors, on va bientôt terminer, mais je voudrais qu'on revienne sur le message, finalement. Donc, vous avez dit, c'est la croix qui vous a converti. Et dans la prédication, donc, vous prêchez, je suppose, la croix. Est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs qui se demandent qu'est-ce que c'est qu'une prédication sur la croix?
Sur la croix, c'est simple. Jésus nous a apporté le message de la croix. Lui-même est monté à la croix pour la rançon de nos péchés. C'est très important. Il est mort pour nos péchés, il est ressuscité pour nous justifier. Donc sans la croix, sans l'évangile de la croix, on est perdu à l'enfer pour toute l'éternité. Et j'enseigne aux âmes qui sont devant moi, à l'auditoire qui sont devant moi, qui ne sont pas chrétiens, en leur disant, si vous n'acceptez pas Jésus, si vous ne vous repentez pas de vos péchés, vous ne rentrerez pas dans le ciel.
Et voilà, alors, le méchage de la croix. C'est le salut par la foi.
Le salut par la foi, par le méchage de la croix.
Oui. Et est-ce qu'il y a d'autres thèmes qui vous sont chers dans la prédication? Donc, vous prêchez sur la croix, vous prêchez sur...
Prêchez sur l'amour, oui. Vous aimez les uns et les autres.
Oui.
Et c'est la croix qui nous apporte, qui nous honora cette force. Si on n'est pas né de Dieu en Jésus-Christ, on ne peut pas y aimer. On aime nos familles, mais on n'aime pas nos prochains. Quand on est né de Dieu, le message de la croix nous apportera la nouvelle naissance. On devient une nouvelle créature. Et si on devient une nouvelle créature, on peut aimer notre prochain, on peut pardonner notre prochain. Sinon, c'est impossible. C'est le message de la croix qui nous apporte l'amour les uns et les autres.
Eh bien, je vous remercie Pierre Gracias et on va terminer là-dessus sur ce message de l'amour distribué par un pasteur tzigane qui est souvent victime de... Enfin, dont la communauté est souvent victime de discrimination et que l'on prend souvent les gitans pour des voleurs de poules. Je voudrais que les gens qui nous écoutent aient au moins compris ce message et je vous remercie vraiment, Pierre Gracias, de nous avoir fait comprendre ce que c'était que cette communauté gitane et cette église Vie et Lumière. Merci beaucoup.
Moi, je vous remercie aussi.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Protestant peut en cacher un autre. Une émission préparée et présentée par Yolande Fourchard-Gounel. Surrender.